Les Chemins de Traverse avec Pascal Laurière, une émission Maurice Clément Fèvre. Bonjour et bienvenue dans ce Chemin de Traverse, le safran de la safranière à votre assiette. Au fil des saisons et des rencontres, nous allons suivre le cycle de Crocus sativus jusqu'à l'obtention puis l'utilisation de l'or rouge, le safran. Dans ce nouveau rendez-vous, nous sommes toujours aux pêches de Clavel, sur la commune de Cagnac-du-Cos, dans le Lot. Pierre Lepont m'a reçu par une belle journée de septembre 2010, quelques semaines avant la floraison. Safranier transformateur et vendeur de bulbes, il nous parle de ses produits transformés. Mais avant, petit passage par le laboratoire où sont élaborés ces différents produits.
Voilà, donc là on rentre dans le petit laboratoire.
Voilà, donc on a parlé du matériel hein, qui était assez sommaire. On n'avait pas besoin de beaucoup de matériel pour cultiver. C'est un avantage. Pas besoin de gros bras, pas besoin de tracteurs. Par contre, c'est vrai qu'on a vu que le safran seul, c'était difficile. On ne peut pas faire une profession en vendant que du safran, que l'épice. Et il est important de transformer. Donc effectivement, nous sommes dans mon laboratoire.
Et là, vous êtes en train d'étiqueter des...
Des flacons de chutney.
Des flacons de chutney.
Voilà, un confit d'oignons et de pommes au vinaigre de cidre. Voilà, donc on les a fabriqués hier et là je suis en train de les étiqueter pour pouvoir les commercialiser.
Donc le chutney au safran du Quercy.
Voilà.
Et tous les produits transformés, c'est toujours, vous partez toujours à base du safran déjà séché ou ça, ou est-ce qu'il peut y avoir des recettes à base du safran en l'état non séché?
Alors c'est une bonne question. Le fait est que oui, bien sûr, on part toujours à partir de safran séché. Mais j'ai fait l'expérience, hein, ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais d'utiliser du safran frais. Et ça marche très très bien. J'ai aussi essayé d'utiliser du safran que j'avais congelé, ça marche très bien. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette expérience? C'est tout simplement pour les gens qui veulent se lancer dans la culture du safran, mais pour, vous savez, comme on a son pied de basilic ou de persil devant la maison, pourquoi pas aussi avoir une vingtaine ou une centaine de bulbes. Et donc les gens, comme ils en ont très peu, pour leur enlever le tracas du séchage, avant de leur proposer de le congeler ou de l'utiliser frais, j'ai fait moi-même l'expérience et ça marche très bien. Voilà, donc je peux proposer aux gens qui veulent faire un petit peu de safran de l'utiliser frais. Maintenant, pour nous, on en utilise de telles quantités que ça nous arrange absolument pas, quoi. Hein. Donc on le fait sécher, on l'utilise exclusivement sec.
Et ça, il y a le même rendu frais ou surgelé ?
Oui, ça se ressemble énormément. Oui, il y a le même rendu. Il y a le même rendu. Donc finalement, le séchage, en fait, on va dire qu'il sert surtout à la conservation.
Nous sortons du laboratoire, retrouvons l'air libre et nous dirigeons tranquillement vers la petite maison cossonarde de Pierre et Chantal Lepont afin de nous retrouver devant la vitrine des produits élaborés avec leur safran. Alors là, nous sommes devant la vitrine des produits transformés à base de safran.
Voilà.
Vous pouvez nous présenter un peu l'éventail de produits que vous élaborez?
Alors... Faut savoir que déjà, plus en amont, il va s'agir de fabriquer des produits qui sont facilement transportables, peu périssables et que l'on peut manipuler sur des marchés. Donc vous allez avoir bien évidemment le safran déjà, avec des conditionnements dans des petites verrines de dimensions différentes. Vous avez juste à côté des sirops, vous voyez ce liquide bien translucide, bien rouge, c'est du sirop de safran. Et sur l'étagère en dessous, vous avez des chutneys. C'est tout simplement un confit d'oignons et de pommes hein, au vinaigre de cidre, au safran. Une gelée de vin à côté. Et enfin, l'étage en dessous, des apéritifs, liqueurs et autres sablés croquants. Qui n'apparaissent pas sur cette vitrine, mais que nous fabriquons en été quand il y a beaucoup de passages. Nous avons des cakes salés, des cakes sucrés. Différents types de gâteaux.
Et ce sont des produits que vous élaborez intégralement ?
Voilà, tout à fait. Le safran tout seul ne suffit pas hein, pour en faire une profession. Il faut évidemment transformer. Et qui dit transformer, bien sûr, dit laboratoire. Donc nous avons un laboratoire pour transformer tout ça. Voilà, toute une gamme qui commence déjà bien à s'étoffer. Année après année, nous faisons de plus en plus de produits. Il faut savoir que le moindre produit prend énormément de temps. Déjà parmi les passions que j'ai, c'est la cuisine. Hein, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, que j'aime beaucoup. Donc je veux vraiment que ce soit parfait. Et il y a déjà beaucoup de travail au niveau du goût pour que ce soit bon. Et en plus au niveau de la texture. Et après de la conservation. Donc chaque fois que l'on crée un nouveau produit, on va le garder un an stocké en fait, pour voir comment il se comporte. Oui. Voilà.
Le safran dans ce type de produit, qu'est-ce qu'il amène ?
Alors déjà, le safran, c'est un goût assez complexe quand même. Certains le qualifieront de métallique, d'autres de iodé. C'est difficile de donner un fruit qui va avoir, par exemple, ce n'est pas une note fruitée vraiment. Cependant, il n'empêche que ça peut donner des notes fruitées dès qu'on le combine avec des alcools, avec d'autres produits. En fait, on va comparer ça, pourquoi pas, plutôt à des plantes aromatiques. Hein. Qu'apporte le laurier, par exemple, dans la ratatouille, ou la marjolaine, ou l'origan ? Difficile, spontanément, de dire ce que ça le... Voilà, c'est global, un tout, quoi, en fait. Hein. C'est des goûts très difficiles, il est vrai, à décrire, mais pourtant très présents, ouais. Mais que l'on a du mal à... C'est ce qui en fait un petit peu la magie, aussi, quoi. C'est que c'est un petit peu comme le vin, où chacun décrit avec ses mots,
avec son palais,
voilà, des mots toujours assez abstraits. C'est pareil pour le safran.
Et vous le définiriez comment, le goût du safran ? Enfin, l'odeur d'abord, si c'est une odeur, et après le goût ?
Alors, moi, je dirais assez métallique et iodé. Hein, donc, je ne suis pas le seul à avoir inventé ces mots-là. Mmh. Et ça donne une certaine rondeur. Ça lie toutes les différents composés. Par exemple, le chutney, qui est ce confit d'oignons, de pommes. C'est de l'aigre doux, du salé sucré. On l'appelle un peu comme on veut, mais c'est toujours du vinaigre, du sucre, du sel. Et le safran va bien lier tous les composants, et les liant, les arrondissant, ça permet même des personnes qui ne sont pas habituées à manger du salé sucré, de l'aigre doux, qui d'habitude n'aiment pas trop ça, là, du fait qu'il y a du safran, on le trouve très bien, quoi, et ça fait un liant.
Vous avez un plat, vous préférez, avec le safran ?
Oui, alors je crois que je reste assez traditionnel, je suis niçois. Donc je suis tombé dans le safran avec la bouillabaisse, avec la soupe de poisson. Ouais. Et c'est vrai que je reste bien attaché, tout simplement, au coquille Saint-Jacques au safran. Et bien sûr, la soupe de poisson. Et d'ailleurs, comme j'aime bien la cuisine, quand chaque fois que je vends du safran sur des marchés ou autres, je donne tout le temps un petit fichier recette pour que les gens, avec 5 ou 6 recettes de base, mais variées, et après, les gens pourront les décliner à l'infini en fonction de leur goût, en fonction de ce qu'ils veulent utiliser comme poisson, comme viande. Mm-hmm. Et je pense que c'est un bon support indispensable pour que les gens puissent apprendre à utiliser le safran.
En intervenant dans cette série, nous avons eu Christian Agrèche, un lotois. Dans la famille, il y avait sur la ferme le petit carré de safran. Pour Didier Bure, même s'il n'est pas lotois, mais d'un département voisin, il est agriculteur et les parents de sa femme avaient leur petit carré de safran sur Calvignac. Odette Anger, et maintenant sa fille, s'y est mise une fois la retraite prise dans le Lot. Par contre, Pierre et Chantal Lepont ne sont ni lotois, ni agriculteurs. Histoire d'un parcours. Vous êtes venu comment à cultiver le safran ?
Alors, je ne suis pas du tout agriculteur, hein, ni mes parents, moi non plus, ni mon épouse. Nous avons fait 25 ans d'industrie. Moi, j'étais technicien dans le domaine de la physique. Mon épouse, de la biologie. Et en fait, on a toujours adoré la nature. On a toujours aimé cultiver. On a toujours eu des jardins. Et on voulait faire de la culture, de l'agriculture, ou peut-être même de l'élevage. Mais sans expérience majeure et à 45 ans. Et donc, que faire ? Et le safran, c'était... assez facile. Alors, on se rappelle même plus, en fait, vraiment à l'origine comment on a eu le déclic du safran. Certainement dans les reportages, ou à la télévision, ou à la radio, ou certainement un petit peu tout. Et voilà, donc ça correspondait à ce que l'on voulait faire. Et autre paramètre, on adorait le Lot.
Mais ce que j'allais dire, parce que après venir dans le Lot.
Voilà. Mais c'est un peu un hasard. Hein. On voulait faire du safran, mais si on s'est retrouvé dans le Lot, qui est une terre de prédilection du safran, c'est un petit peu le hasard, en fait. Hein. C'est qu'on aimait bien le Lot et on aimait le safran. Mais au départ, on ne savait même pas trop que le Lot était une terre à safran. Et voilà, et ça c'est fait. Et le safran est devenu d'autant plus une évidence que nous avons fait l'acquisition d'une fermette avec ses terres de Causse très, très peu profondes, très caillouteuses, et tout ne poussera pas dessus. Voilà, donc le safran, on l'avait en tête, et ça a été l'opportunité vraiment de le faire définitivement.
Et c'est quoi qui vous attire maintenant, enfin qui vous plaît maintenant dans la culture du safran ?
Oh ben, pour certains qui parleront d'un certain romantisme, moi je dis oui, hein, sans problème, hein, j'ai pas honte de le dire, hein, c'est, ça sent vraiment très bon, c'est beau, c'est sur des surfaces petites, c'est vraiment à dimension humaine, c'est vraiment magique, hein, quand bientôt là, dans deux semaines, quand ça sera à la récolte, quand on rentre les gros paniers de fleurs dans la maison là, pour les mondages, ça sent bon, ça embaume toute la maison. Quelque chose qui sent très très bon aussi, c'est le pistil lui-même que l'on fait quand on le fait sécher. On va le faire sécher sur un petit séchoir avec un petit séchoir à fruits. Ce sont des petites clayettes avec une petite résistance chauffante dessous et un petit ventilateur qui fait un flux très léger. Mmh. Et tout ça, c'est magique en fait. Hein, et c'est très bien, et ça nous correspond bien, quoi. À la limite, presque, donc, après 25 ans d'usine, on a fait ça, donc, à quel âge ? 40, 45 ans. Et la seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt.
Ça doit être un moment magique, là, à la saison des fleurs, là, quand vous sortez le matin, puis que c'est tout fleuri. Parce que, d'après ce que j'ai compris, on peut se coucher le soir, il n'y a rien, et puis on sort le matin, et... tout le champ est en fleurs. Enfin, tout le champ, ou une grande part, ça va être assez, oui. assez fort comme moment. Quand même. Oui. En plus, je m'imagine très bien dans le paysage, là, sur le Causse, un peu qu'il y ait un peu de brume, enfin, un soleil qui se lève, ça va être...
C'est exactement ça, avec le fond, les érables de Montpellier, tout rouge, là, donc avec la brume du matin. C'est très joli. Avec tout le temps un petit pincement au cœur, malgré tout, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va y avoir. Et c'est vrai que... la récolte, donc nous sommes deux, hein, c'est pas très facile. Enfin, c'est pas très facile. Disons qu'il faut vraiment, il faut pas qu'il pleuve, quoi, ce jour-là. Il vaudrait mieux pas qu'il pleuve parce que les nuits vont être très très courtes. Mais c'est magique parce que c'est la récompense d'un an de travail, ouais, en fait. Hein, et on a enfin notre bébé, hein, qui sort. C'est chaque année un nouveau bébé. Hein, et c'est tout le temps le même émerveillement.
Mm-hmm. Oui, parce qu'il y a le plaisir de voir bon, mais que ça fleurit, que ça sort. Et puis le fait de voir ses fleurs. Quoi.
Bien sûr, malgré tout, c'est son
travail. La beauté de ses fleurs.
Tout à fait, c'est très beau. Alors ça fait partie des mystères du safran. On ne sait pas trop pourquoi le safran sort tel jour, pas tel autre.
Beaucoup de mystères sur la floraison, le cycle du safran. Avant de quitter Pierre et Chantal, l'avis de Pierre sur la floraison de Crocus sativus.
Mais il semblerait que ce soit quand la pression atmosphérique baisse que les fleurs sortent. J'en veux pour preuve qu'au départ, on se demandait les fleurs sortaient en même temps que la pluie. Mais c'est-à-dire qu'elles ne sortaient pas le lendemain de la pluie comme les champignons sortiront 3-4 jours après. Mmh. Elles sortaient en temps réel, en même temps qu'il se mettait à pleuvoir. Et finalement... chaque fois qu'il pleut, c'est parce qu'il y a une baisse de pression atmosphérique. Et donc, c'est en notant les pressions atmosphériques qu'on s'est aperçu qu'il y avait une synchronisation avec ça. Par contre, si d'aventure, il y avait une période très longue, anticyclonique, ça peut arriver, hein, l'été indien qui dure pendant des mois. Alors là, le safran traîne un peu la patte, il traîne un peu à sortir, mais il sortira quand même.
Oui, parce qu'il y a aussi une notion de température. A priori, il faut qu'il y ait eu des premiers froids pour que,
voilà,
pour que les bulbes...
Voilà, et bien sûr, il y a en plus la température qui joue, donc ça fait pas mal de paramètres croisés.
C'est à la fois sur les regrets de Pierre et son plaisir de s'être lancé dans le safran que nous allons quitter la safranière de la Brogne sur la commune de Cagnac-du-Causse. Alors... si vous passez par chez nous dans le Lot, vous pouvez aller voir Pierre et Chantal chez eux, mais vous pouvez également les voir sur les marchés de producteurs de pays. Ainsi, ils sont tout l'été à Gramat, Cabroret ou encore la Bastide Murat. Sinon, leurs produits sont en vente dans certaines épiceries fines françaises. Et puis, en dernier recours, il reste les commandes par correspondance. Alors pour tout renseignement, une adresse courriel... safran de la Brogne en un seul mot @alsatis.net safran de la Brogne alsatis.net, en sachant que la Brogne s'écrit B-R-A-U-N-H-I-E. C'était Les Chemins de Traverse avec Pascal Laurière, une émission Maurice Clément-Fèvre.